Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et excellent réveil en votre compagnie Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bienvenue à l'édition du jeudi 23 juillet 2015. À la une ce matin.
Départ ce jeudi de Barack Obama pour une nouvelle tournée africaine.
Au Nigeria, plus de 40 personnes ont été tuées dans l'explosion de plusieurs bombes à Gombe.
Et nous reviendrons sur le double attentat qui a fait au moins 13 morts à Marwa au Cameroun.
Présidentielle burundaise, le scrutin du 21 juillet met fin à la dynamique démocratique insufflée depuis les accords d'Arusha. C'est l'angle de l'analyse à suivre.
Et ne manquez pas la page écho et les sports, mais d'abord le journal.
Nous arrivions sur le lieu, il y avait un blessé qui venait de rendre l'âme, ce qui remontait à 13, n'est-ce pas, les victimes. Bon, il y en a également qui ont vu leurs membres amputés.
Extrait de l'analyse que nous entendrons en seconde partie d'émission.
Départ ce jeudi de Barack Obama pour une nouvelle tournée africaine. Au programme, le Kenya, patrie de son père, et l'Éthiopie, où il sera le premier président américain de l'histoire à se rendre. Les autorités kenyanes ont publié des détails de ce voyage, comme l'heure de l'arrivée de M. Obama. Des révélations qui ne sont pas de nature à changer le programme de son déplacement, affirme la Maison-Blanche, estimant que les détails essentiels pour sa sécurité n'ont pas été rendus publics. Un porte-parole a notamment fait remarquer que voyager au Kenya n'était pas comparable à se rendre dans des zones de guerre comme en Irak ou en Afghanistan, où tous les détails du déplacement sont gardés secrets. Chaque voyage du président américain en Afrique est scruté et celui-ci ne dérogera pas à la règle, Nicolas Pineau.
Oui, ce voyage est d'abord placé sous le signe de l'économie, puisque Barack Obama participera à Nairobi à un sommet mondial de l'entrepreneuriat. Le Global Entrepreneurship Summit est une initiative lancée en 2010 et qui rassemblera des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises. Barack Obama rencontrera évidemment son homologue kényan, Uhuru Kenyatta. Les deux présidents auront à discuter de commerce et de sécurité avec la lutte contre les djihadistes d'Al-Shabaab, responsables notamment du massacre de Garissa. Même priorité lorsque le président américain rencontrera les dirigeants éthiopiens. L'Éthiopie est aussi en pointe dans le combat au sein de la mission africaine en Somalie. À Addis Abeba, Barack Obama devrait évoquer le déficit démocratique africain devant les dirigeants de l'Union africaine. À ce titre, plus de 50 ONG africaines et internationales, dont Human Rights Watch et Freedom House, lui ont écrit pour le presser de ne pas faire l'impasse sur le sujet.
Nouveaux attentats dans le nord-est du Nigeria. Plus de 40 personnes auraient été tuées mercredi soir dans l'explosion de plusieurs bombes dans deux gares routières de la ville de Gombe. C'est ce qu'ont indiqué un secouriste et un témoin cité par l'AFP. La première explosion a été confirmée par le porte-parole de la police de l'état de Gombe, qui n'a pas donné de bilan des victimes ni de détails sur la deuxième gare. Boko Haram est pointé du doigt.
République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est entretenu avec Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch dans la capitale Kinshasa. Il a notamment plaidé en faveur de la libération de Fred Bamba et Yves Makwambala, les deux militants congolais arrêtés le 15 mars dernier pour avoir participé à une rencontre avec des militants sénégalais de l'organisation Yan Amar et burkinabé du Ballet Citoyen. On écoute Kenneth Roth.
Nous avons parlé hier avec le président à ce sujet et on lui a parlé du rapport parlementaire qui suggère trouver une solution politique pour que les deux jeunes hommes soient libérés. Le président, il a dit qu'il est d'accord avec ça. Il aimerait bien voir qu'une solution soit trouvée et que les jeunes hommes soient libérés. Et donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère que ça se passe assez vite, parce que les deux jeunes hommes ont passé trop longtemps en prison pour avoir rien fait. Et c'est vraiment le temps de les libérer. Avec le président, nous avons parlé beaucoup de l'importance de respecter les libertés fondamentales, surtout pendant une période électorale.
Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, extrait fourni par Top Congo FM, partenaire de VOA Afrique à Kinshasa.
Accusation d'abus sexuels par des soldats français en République centrafricaine. La responsable de l'ONU, la plus haut placée à avoir été informée de ces actes, a démissionné. D'après l'ONU, des raisons de santé sont à l'origine de sa décision. Flavia Pansieri était la numéro 2 du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, basée à Genève. Devant les critiques accusant l'ONU d'avoir tardé à réagir, une commission d'enquête indépendante a été nommée le mois dernier pour évaluer la façon dont l'organisation a géré cette affaire.
Procès Issenabré, deux ministres tchadiens ont réitéré mercredi à Dakar l'engagement de leur pays pour un bon déroulement du procès de l'ex-président, assurant vouloir que justice soit rendue aux victimes de son régime et se défendant de tout règlement de compte. Le procès de M. Abré pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, qui s'est ouvert lundi et a été ajourné dès le lendemain au 7 septembre, l'accusé refuse de s'exprimer devant les chambres africaines extraordinaires.
En Somalie, l'armée annonce avoir repris aux islamistes Shabab la ville de Bardéré au cours d'une offensive lancée conjointement avec les troupes de l'Union africaine. On fait le point avec Idi Sango.
Il n'y a pas eu de résistance lorsque les troupes somaliennes et celles de l'Union africaine ont marché hier sur cette ville méridionale située à 350 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Selon Siad Ahmed, un haut gradé somalien qui cite l'AFP, les éléments violents des Shabab avaient vidé le lieu avant l'assaut de la coalition armée somalienne Casque Vert. Les forces coalisées chrétiennes d'invasion et les apostats somaliens sont entrés dans certaines parties des Bardères cet après-midi, mais les Moudjahidines intensifient la résistance, a annoncé le commandant Shabab, Sheikh Ahmed Abu Ubeida, promettant que l'affrontement durera plus longtemps que ce que pense l'ennemi. Les habitants des villages voisins ont, eux, fait état de violents combats. Les mêmes sources ont indiqué que les habitants de Bardère avaient également pris la fuite. La mission de l'Union africaine a lancé une semaine plus tôt une nouvelle offensive baptisée Juba Corridor, impliquant des forces éthiopiennes et kenyanes et visant à déloger les Shabab des zones rurales du sud du pays. 24 islamistes ont été tués durant ces opérations, selon l'armée somalienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Inquiétude en Turquie concernant une possible contagion du conflit syrien. Les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, ont tué mercredi deux policiers turcs à Ceylanpınar en représailles à l'attentat suicide contre des militants pro-kurdes attribués au groupe État islamique. Deux jours après l'attaque qui a fait 32 morts et une centaine de blessés à Suruk, le mouvement kurde a expliqué avoir symboliquement visé les deux agents des forces de l'ordre représentants de l'État turc pour avoir coopérer avec les djihadistes. C'est dans ce contexte que le président américain Barack Obama et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont téléphonés mercredi pour évoquer le combat contre le groupe État islamique, a rapporté la Maison-Blanche.
Le secrétaire américain à la Défense affirme avoir reçu l'assurance des dirigeants saoudiens qu'ils soutiennent l'accord historique sur le nucléaire iranien. Ashton Carter était à Riyad hier dans le cadre d'une tournée visant à calmer les craintes des États du Golfe sur l'entente trouvée mardi dernier à Vienne entre l'Iran et le groupe des Six. Chez Romain Dorsil nous en dit plus.
Le patron du Pentagone s'est entretenu avec le roi Salman, son homologue Mohammed bin Salman et d'autres responsables saoudiens dans la ville de Jeddah. Suite à ces entretiens, Ashton Carter s'est confié à la presse. Le roi et le ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite ont réaffirmé leur soutien à l'accord nucléaire avec l'Iran, a dit M. Carter. Depuis la signature de l'accord, le 14 juillet dernier, les Saoudiens s'étaient gardés de tout commentaire public. Cependant, de récents rapports de presse indiquaient que les autorités de Riyad sont préoccupées par les retombées de l'accord en faveur de l'Iran dans une région déjà instable. La levée des sanctions dans les mois à venir contribuera à renflouer les caisses de l'État iranien. Comment seront utilisés ces milliards de dollars? C'est la grande question qui semble inquiéter les partenaires des États-Unis dans le CCG, le Conseil de coopération du Golfe, tout comme en Israël, qu'Ashton Carter a visité dans la première étape de sa tournée. Néanmoins, un point soulevé par les dirigeants saoudiens, a dit M. Carter, concerne le processus de vérification de l'accord. Riyad veut s'assurer que l'Iran respecte ses engagements de ne pas chercher à se doter de l'arme nucléaire. Autre souci, le rétablissement des sanctions en cas de violation par l'Iran. Dans 10 jours, le secrétaire d'État John Kerry suivra les pas d'Ashton Carter pour rassurer de nouveau les partenaires et alliés de Washington.
Et à New York, un millier de manifestants étaient rassemblés hier à Times Square pour dénoncer cet accord nucléaire conclu entre l'Iran et les grandes puissances, appelant le Congrès des États-Unis à rejeter le texte. La foule était composée notamment d'élus républicains, de sympathisants de la droite israélienne et de groupes chrétiens évangélistes, d'après l'AFP.
Vers une fermeture de Guantanamo à Cuba, la Maison-Blanche a indiqué mercredi mettre la dernière main à un plan de fermeture de la prison militaire où plus d'une centaine d'hommes sont enfermés depuis 13 ans sans inculpation ni procès. C'est une priorité pour le président Obama qui avait promis de fermer le centre de détention dès son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2009, a rappelé la Maison-Blanche.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Le gouvernement camerounais vient d'annoncer le recrutement durant cette année de 1500 diplômés en vue d'étoffer les effectifs de la fonction publique dans les domaines aussi variés que la santé publique, les mines, le cadastre, les affaires sociales, l'éducation physique et sportive, ainsi que la documentation, le génie civil, les industries animales, l'agriculture et l'architecture. Premier employeur du Cameroun, la fonction publique compte plus de 270 000 agents éparpillés sur l'ensemble du territoire national. Le Burkina Faso va bénéficier d'un prêt de 15 milliards de francs CFA de la Banque européenne d'investissement pour le financement de la construction de la centrale photovoltaïque de Zaktouli à la périphérie ouest de Ouagadougou. Cette centrale est considérée comme l'une des plus grandes centrales solaires photovoltaïques d'Afrique subsaharienne. Elle va permettre au Burkina Faso, pays enclavé, de réduire sa dépendance énergétique. Les revenus pétroliers de l'Algérie ont baissé de 43,71% durant le premier semestre de 2015 en raison de la chute des prix du brut, entraînant un creusement du déficit commercial. C'est ce qu'ont annoncé les douanes algériennes. Les hydrocarbures rapportent à l'Algérie plus de 95% de ses recettes extérieures et contribuent pour 60% au budget de l'État.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Claire. Et on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgane.
Les supporters racistes de Chelsea condamnés en Angleterre.
Les 5 supporters du club de football impliqués dans un incident raciste dans le métro parisien, souvenez-vous, c'était avant le match PSG-Chelsea en février dernier. Ils ont été condamnés à Londres à des interdictions de stade de 3 à 5 ans. En réaction à ce verdict, le club londonien a annoncé que les 5 hommes allaient être en plus interdits à vie d'entrer dans son stade de Stamford Bridge.
Match en retard du championnat malien de football.
L'AS Sabana Mopti a battu 2-0 le CS Dougou Wolofila. Mardi, le stade malien a été resté leader du championnat après sa victoire 2-0 face à l'Asso Missira. Deuxième du championnat, le 11 créateur avait laminé 4-0 le Mamaïra de Cati.
Transfert.
Le milieu de terrain Mario Suarez, international espagnol de l'Atlético Madrid, est transféré à la Fiorentina. C'est ce qu'a annoncé le club qui a terminé troisième du dernier championnat espagnol. En 5 saisons à l'Atlético, Mario Suarez a remporté un championnat, une Coupe d'Espagne, une Europa League, une Supercoupe d'Espagne et 2 Supercoupes d'Europe.
Cyclisme, le Tour de France.
La première arrivée au sommet dans les Alpes a consacré l'Allemand Simon Geschke, vainqueur de la 17e étape à Pralou, où le Britannique Chris Froome, en jaune, a contrôlé ses adversaires. La descente d'Alos redoutée a tourné mal pour l'Espagnol Alberto Contador, qui a chuté et a perdu plus de 2 minutes sur ses rivaux. Sachez également que le champion du monde, le Polonais Michał Kwiatkowski, de l'équipe Etix, il a abandonné, lui également, dans cette étape suite à une chute.
Lutte contre le dopage aux États-Unis.
Justin Gatlin, champion olympique du 100 mètres en 2004, est suspendu pour dopage entre 2006 et 2010. Il a été testé à 59 reprises par l'agence américaine antidopage depuis son retour à la compétition. Gatlin a établi cette année de nouveaux records personnels sur 100 mètres à 9 secondes 74 centièmes et sur 200 mètres à 19 secondes 57 centièmes. C'est donc plus rapide qu'à l'époque où il se dopait, Morgan. Il y a donc de plus en plus de suspicions.
Alors que le sprinteur domine donc à nouveau le sprint mondial depuis 2 ans, l'USADA révèle que l'Américain de 33 ans a subi 59 contrôles qui n'ont donné lieu à l'ouverture d'aucune procédure.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriet, en votre compagnie, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Première escale ce matin, le Cameroun. La ville de Maroua, capitale de la région de l'extrême nord, est encore sous le choc du double attentat suicide d'hier qui a fait au moins 13 morts et 32 blessés. Dans un communiqué, le président camerounais Paul Biya a condamné des actes lâches et ignobles perpétrés contre des populations innocentes. Il a appelé la population à la vigilance et à une collaboration étroite avec les forces de sécurité. Selon les autorités, la double attaque de Maroua était l'œuvre de deux jeunes femmes kamikazes. Timothée Donomaï a joint sur place Amidou Amadou, maire du premier arrondissement de Maroua.
On n'en fait vraiment pas sur les deux kamikazes, mais seulement la première, c'est une jeune fille qui a entre 12 et 13 ans. Et la deuxième, elle est assez grande, elle peut avoir peut-être 25 ans. Selon le témoignage des voisinages du marché, cette dame a traîné toute la matinée sur cet axe-là. Elle a beaucoup sillonné et elle serait en train de vendre les dattes. Donc justement, quand je me suis rendu sur le lieu, nous avons constaté des dattes éparpillées de partout.
Ces attaques interviennent au cœur même de la ville de Maroua. Quel est leur impact sur la population?
Vous savez, c'est la première fois qu'une attaque de telle envergure, n'est-ce pas, a lieu au cœur de la ville de Maroua. J'avoue très sincèrement que la population, elle est complètement désemparée, elle est complètement déboussolée. C'est vrai qu'elle était très courageuse, surtout avec les mesures prises par les pouvoirs publics, le renforcement de sécurité depuis la veille de la fête jusqu'à ce jour. Donc la population avait confiance en tous ces dispositifs de sécurité qui étaient mis en place. Bon, mais avec ce qui se passe, je crois que c'est quelque chose de très, très, très douloureux. Mais j'ai confiance en ma population. C'est une population très courageuse, très dynamique. Et surtout qu'avec tout ce qui s'est passé, elle s'est levée comme un homme. Elle est allée au secours des blessés. Elle a tout de suite porté secours aux familles des victimes. Donc, nous allons rester debout.
Quelle est la situation des blessés?
Ils sont éparpillés sur 3 hôpitaux. Au niveau de l'hôpital régional, il y en a 22. Et au niveau de l'hôpital de Bamaré, qui est situé à environ 1 km du marché central, il y en a 2. Et puis, au niveau de l'hôpital de Founalé, qui est situé à côté du pont vert, il y a 8 blessés. Donc, parmi lesquels, au moment où nous arrivions sur le lieu, il y avait un blessé qui venait de rendre l'âme, ce qui remontait à 13, n'est-ce pas, les victimes. Bon, il y en a également qui ont vu leurs membres amputés, parce qu'il y avait l'urgence, ils saignaient énormément, il fallait donc amputer les membres. Les médecins ont pris les dispositions nécessaires, ils sont à pied d'œuvre. Donc, nous espérons que le bilan ne va pas s'alourdir, quoi.
Après Fotokol, plus au nord, c'est Maroua qui enregistre maintenant une attaque terroriste. Maroua qui est plus au sud, est-ce que cela n'est pas inquiétant?
Bien, cela est inquiétant, mais si ça arrive, et surtout qu'on a confiance en notre gouvernement et à notre armée, maintenant nous allons seulement multiplier la communication, nous allons multiplier la vigilance. Les instructions qui ont été données par l'hôpital d'initiative doivent être respectées à la lettre. Parce que le gouverneur a convoqué une réunion d'urgence et des instructions ont été données tant au préfet qu'au sous-préfet qu'au chef de quartier et chef de carré. Donc les populations sont conscientes et elles se préparent, n'est-ce pas, en conséquence par rapport au pays qui peut se présenter à nous.
Amidou Amadou, maire du premier arrondissement de Maroua, capitale de la région camerounaise de l'extrême nord.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Le scrutin présidentiel de ce 21 juillet au Burundi est un ouragan qui met fin à la dynamique démocratique inspirée et insufflée depuis les accords d'Arusha d'août 2000. Et c'est l'analyse de Freddy Kourikiye, chef de mission du Centre pour le dialogue humanitaire, une fondation basée à Genève. S'exprimant au micro d'Éric Manirakiza, cet expert souligne les conséquences néfastes sur la vie socio-économique du Burundi et des Burundais.
Il y a des voix qui s'expriment pour dire que le scrutin n'a pas rempli les critères de crédibilité nécessaires. Vous savez, quand un processus politique a lieu dans une atmosphère d'incompréhension, de cacophonie, de divergence, teintée de violence, ça ne peut pas manquer de préoccupation. Parce que j'ai participé en tant qu'observateur international au processus de paix d'Arusha, aux négociations, et je suis extrêmement préoccupé par le fait que on puisse perdre les acquis de ce long et laborieux processus de négociation.
Qui en sort gagnant et qui en sort perdant?
Je mets en point d'honneur au respect des engagements pris lorsque l'accord a été signé au mois d'août de l'année 2000. C'est qu'effectivement, il y a eu un problème absolument politique, ce n'est même pas juridique, c'est politique, une spéculation politique autour de la candidature du président Nkurunziza. Moi, je ne viens pas là-dessus parce que je pense que les choses sont claires. Lorsque on lit l'accord d'Arusha, lorsqu'on lit la Constitution, il y a moyen de comprendre que c'est un sujet à polémique qui n'aurait pas dû être. Je ne pense pas qu'en cas d'espèce, l'on puisse parler de demi-mandat ou quoi. Mais aujourd'hui, il faut travailler à ce que l'on prévienne une nouvelle crise politique, des élections que certains ont boycottées. On dira que c'est le jeu démocratique. Mais lorsque dans une situation, on est plutôt en train de construire la démocratie, on est en train de consolider l'accord de paix. Il faut faire attention pour que le dialogue ne soit ni bâclé, ni renvoyé à chaque fois à plus tard. Je pense qu'à un moment, il y a eu de l'énervement, il y a eu de l'empressement, et ça fait qu'en 2 mois, le Burundi a grillé 3 médiateurs.
Le dialogue est-il toujours possible et sur quel agenda?
On tombe, on se relève, on arrondit les angles, mais le dialogue doit rester permanent.
Et comment voyez-vous l'avenir du Burundi et des Burundais?
Alors, ce qui sera dangereux, c'est cette perception d'exclusion qui engendre des frustrations. Et vous savez que les frustrations peuvent mener à beaucoup de choses. Si les Burundais sont pris à la gorge par une aggravation de la crise économique et financière, ça n'est jamais bon pour un pays. Parce que ça atteint non seulement les ménages, mais ça déséquilibre aussi les services sociaux. Si on ne peut pas aller à l'école, si on ne peut pas se faire soigner, si on ne peut plus se loger correctement, si le salaire devient aléatoire, ça peut être difficile à tenir.
Freddy Kourikiye, chef de mission du Centre pour le dialogue humanitaire à Genève.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur l'après-présidentielle au Burundi. 2 jours après ce scrutin controversé, quelle perspective après le passage en force de Pierre Nkurunziza? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Au Congo-Brazzaville, le dialogue alternatif pour traiter des questions électorales s'ouvre vendredi. Le collectif des partis de l'opposition qui organise ses assises estime que le dialogue récemment organisé à Sébiti par le gouvernement ne s'est focalisé que sur la question de changement de constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso d'obtenir un 3e mandat. De Brazzaville, notre correspondante Gwélène Goussou.
Ce dialogue alternatif souffle vendredi à Brazzaville. Quels en sont les objectifs? Mathias Sinzon, l'un des leaders de l'opposition.
Là-bas, on s'est proposé de faire mettre en avant les intérêts personnels d'un homme. Or, nous voulons mettre en avant les intérêts de tout notre peuple. L'intérêt de notre peuple, c'est d'aller vers la concorde, vers la fraternité et vers de vraies élections pour désigner enfin dans notre pays un vrai président qui sera réellement élu. Mais nous entendons ce que nous avons dit tous les démocrates, les républicains qui sont désireux de venir échanger avec nous sur ces vraies questions-là. Les élections dans notre pays, parce que nous ne voulons plus que les élections deviennent, soit demeurent toujours une source de querelle dans notre pays. Que ça aille de soi, regardez en Europe, c'est une honte pour nous qu'à chaque élection, nous devons nous quereller. Nous ne voulons plus ça. Le moment n'est plus à la décision sur les institutions. Le pouvoir qui viendra posera ce problème-là. Parce qu'il nous reste seulement 12 mois, on n'a plus le temps.
Pour les membres de l'opposition, il s'agit là d'une réponse au dialogue national qui a eu lieu du 13 au 17 juillet à Sibiti. Clément Mirassa qualifie d'ailleurs de recul
le forum de Sibidi.
Quand vous lisez ce rapport sur la réforme des institutions, on dit que l'article 3 et l'article 86 permettent au président de saisir les deux présidents des deux chambres pour appeler à un référendum qui permette de changer la constitution. C'est faux! Et on ne peut pas permettre au président Sassou de continuer à tromper les Congolais, à tricher et à ne pas respecter les lois et règlements de la République.
Pour Jean Itadi, le président du CAP, l'un des partis organisateurs de ce dialogue, une seule priorité compte pour le Congo aujourd'hui.
Ayant parlé à ses alliés à Evo, à Luzi, à Brazzaville, le PCT et le pouvoir ont parlé à lui-même à Sibidi. Si les choses avaient évolué, on n'aurait pas repris dans les recommandations et le communiqué final les mêmes choses qui avaient été dites et non appliquées après Evo, Doulizi et Brazzaville. Ça veut dire qu'il y a des priorités, et la vraie priorité est la seule, c'est créer les conditions de l'organisation d'une élection juste, libre et transparente en 2016.
À 24 heures de ces assises, les interrogations demeurent sur le lieu et la durée de ces dialogues alternatifs. Guelangoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Le Togo veut disposer des statistiques de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Une étude vient d'être réalisée et les résultats validés. Reportage à la main de notre correspondante Kay Lawson.
La justice togolaise ne dispose pas de données statistiques. Pour corriger cette tendance qui agit sur la mise en œuvre du programme de modernisation de la justice, une étude a été réalisée sur l'état des lieux des statistiques judiciaires et pénitentiaires au Togo. Joëlle Affichard est la consultante en charge de l'étude.
Il s'est agi de faire le diagnostic de la production de données au ministère et dans les juridictions, de faire également le diagnostic des capacités des juridictions à produire des chiffres. Et ensuite, sur cette base, je propose un ensemble de dispositifs, c'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle un cadre de collecte, c'est-à-dire des tableaux qui devraient être remplis régulièrement de façon à fournir la base des statistiques. Mais je propose également l'architecture du système d'information, c'est-à-dire tout le dispositif institutionnel nécessaire à ce que la statistique soit produite.
La prochaine étape sera la mise en place d'un système de production de statistiques judiciaires. Comparé à la santé de l'homme, les statistiques permettront de faire une meilleure analyse de la situation de la justice et de l'administration pénitentiaire togolaise, estime le ministre de la Justice, Pius Agbetome.
On dit que les prisons sont engorgées, mais peut-être on ne fait pas la bonne analyse. C'est par rapport peut-être à un établissement pénitentiaire qu'on dit que les prisons sont engorgées. Si vous prenez le cas de la prison de Kara, vous ne direz pas que la prison de Kara est engorgée. Mais quand vous prenez la prison de Lomé, parce que c'est une vieille prison et la population carcérale est importante, on dit que c'est engorgé. Et on met en place des politiques pour désengorger. Mais ça ne suffit pas. Donc les statistiques permettront de voir combien de personnes arrivent tous les jours, les délinquants primaires, combien de personnes sortent et reviennent les récidivistes, combien de personnes sont envoyées au juge d'instruction, les inculpés, combien de personnes sont programmées pour être jugées rapidement, c'est-à-dire les prévenus devant les tribunaux de flagrant délit. Donc c'est toute une panoplie d'informations que les statistiques révéleront.
Afin d'avoir des statistiques fiables, les spécialistes de justice suivront une formation sur la production de données. Eric Nenedini, chargé du programme d'appui statistique à la délégation de l'Union européenne au Togo.
De manière générale, il y a une absence de statistiques. La présence de données ne veut pas dire une présence de statistiques. Parce que les données sont toujours présentes, mais il faut les structurer. Et nous sommes en train de voir avec notre programme d'appui statistique comment nous allons former au niveau des juridictions ceux-là qui sont des spécialistes mais qui sont obligés de faire les statistiques. Ils sont spécialistes de la justice, les greffes par exemple. Personne ne peut tenir les registres des greffes, à part les greffes.
Le souhait est qu'à la fin de 2015, le Togo puisse disposer d'une première année statistique pour le secteur de la justice. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel, au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde est assurée par Anne Albertson, Morgan Guiriec à la présentation et je vous souhaite une excellente journée à tous.
Cœur de l'info sur VOA Afrique.